Aujourd'hui, il nous est donné par l'Église de méditer le thème de la résurrection avec cet entretien notamment des Sadducéens avec Jésus et ce récit tout en haut en couleur et terrifiant même des martyrs de la famille Maccabée, enfin du livre des Maccabées. Et la résurrection, c'est quelque chose qui nous interroge dès qu'on pense un peu à la mort et à l'éternité. Quand on interroge les hommes, eh bien, ils sont un peu comme ces Sadducéens, soit ils n'y croient pas. Les Sadducéens, c'était un groupe religieux dont appartenaient les grands prêtres. Vous voyez, un milieu très rigide qui ne prenait comme norme que le décalogue. Les prophètes ne les intéressaient pas, c'était trop risqué sans doute. Et ils ne prenaient la loi que littéralement. Donc, dans le décalogue, on ne parle pas de résurrection, donc il n'y avait pas de résurrection. Vous voyez, c'est une mentalité très rigide, une mentalité cléricale. Et en revanche, ils n'étaient pas du tout rigides dans leur relation avec les Romains, dans leur appétit de pouvoir et d'argent. Pour ça, il n'y avait pas de rigidité. Mais pour les questions essentielles telles que la résurrection, eh bien, ils sont à côté de la plaque. Quand on interroge les hommes, disais-je, ils répondent soit comme les Sadducéens, pas de résurrection, ou alors quand ils répondent comme les pharisiens, qu'il y a bien une résurrection, eh bien, ils le font dans le prolongement de la vie présente, c'est-à-dire une vie terrestre, heureuse et sans fin. C'est la représentation de beaucoup de gens, quand ils se mettent à penser un peu à l'éternité, hein, une sorte de paradis terrestre infini, et où on a la même vie qu'aujourd'hui, mais heureuse, c'est-à-dire sans les maladies, sans le vieillissement et sans la mort, bien sûr. Et puis voilà, quoi. C'était le cas des Sadducéens, certains d'entre eux, en tout cas les pharisiens, disons. Et c'est le cas aussi, on le sait, des musulmans, par exemple. On nous vante souvent cette religion comme étant une voie de salut, ce qui est faux. Parce que, notamment, leur conception de la vie éternelle, du paradis, c'est justement celle-là. On vit avec les appétits corporels, mais qui sont rehaussés par la bénédiction divine. Et tous les appétits, on mange, on boit, vous savez, les fameux djihadistes là qui tuent impitoyablement les autres, rêvaient et rêvent toujours des 70 vierges et des festins qu'ils vont pouvoir faire dans l'autre vie. C'est vraiment une représentation très puérile de l'éternité. C'est pas du tout la représentation chrétienne. Jésus nous dit et conteste et dénonce ce genre de vision en disant que dans l'éternité, on est pareil aux anges et que la condition humaine s'en trouve vraiment totalement transformée. Là, il n'y a plus d'appétit à satisfaire. C'est la première chose sur laquelle Jésus met le point sur les i. C'est fini, les appétits. Les hommes, grosso modo, ce qui vient du corps, c'est la nourriture et le sexe. Voilà les deux choses qui nous obsèdent pendant toute notre vie, même quand on a l'intention de prendre des distances vis-à-vis de cela. Là, on est obligé de supporter les appels de la chair, et on les supporte, bien sûr, et elles ont leur joie. Mais enfin, on reconnaît que c'est très limité par rapport à l'âme, aux appétits de l'âme. Et l'âme, elle aspire au bonheur, elle aspire à une joie qui n'est pas temporaire. Jésus dit, ces appétits-là, le corps glorifié, eh bien, il ne ressent plus ces appétits-là. Et au paradis, on est comme les anges, on ne se marie plus, parce qu'on est immortel. Donc le mariage et la procréation, c'est bien une perpétuation de la vie, c'est à cause de la mort et de la condition mortelle. C'est aussi une œuvre de miséricorde. Ça nous permet de tenir la vie les uns des autres. Mais notre origine, c'est bien Dieu. Les parents ne sont que des intermédiaires qui accueillent les âmes que Dieu leur envoie. Et au paradis, eh bien, on se rend compte de cela d'une manière magnifique. Parce que justement, les appétits disparaissent. Et le corps glorifié est plutôt le corps d'un ange, même s'ils n'ont pas de corps, que le corps d'un homme tel qu'on le connaît ici-bas. Ça a tellement peu de rapport que, eh bien, il ne faut vraiment pas les comparer. On voit Jésus, là, quand il est ressuscité, qui passe à travers les murs, qui apparaît et disparaît en un instant à des lieux différents. Ça n'a plus rien à voir avec la condition que nous connaissons. Ils sont, dit Jésus, ceux qui méritent la résurrection. Ils sont enfants de Dieu, dit-il d'abord. Il fait référence à la vision béatifique, la contemplation, vous voyez, de la condition humaine et de sa destination, c'est Dieu. Enfin, on devient enfant de Dieu. On a du mal en ce monde à être enfant de Dieu. On le sait dans la foi, on le sait par volonté divine, ceux qui reçoivent le baptême et qui reçoivent les grâces du baptême, bien sûr, qui communiquent. Eh bien, ceux-là deviennent enfants de Dieu. On est entré dans cette filiation par rapport au Christ. Mais on ne s'en rend pas, vraiment pas compte. On reste toujours de pauvres hommes, de pauvres femmes, très limités. Tandis qu'au ciel, eh bien, on le voit, on le comprend, on le perçoit, on le ressent. On est fils de Dieu. Et ça, c'est une chose merveilleuse qui nous viendra un jour. C'est être enfant de Dieu, comme Jésus le dit ici, en parlant d'éternité, eh bien, c'est vraiment l'accomplissement du vivant. Oui, tout ce que nous sommes en tant que vivants, et vivants spirituels, pas seulement corporels, eh bien, sera cet accomplissement au ciel. Le ciel est cet accomplissement parce que Dieu est le ciel. Ils sont enfants de Dieu, ils sont aussi enfants de la résurrection, dit Jésus. Enfants de la résurrection, c'est, ça fait appel au souvenir de la grande épreuve, comme dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Qui sont-ils ceux-là, les élus? Eh bien, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, celle du combat spirituel que nous menons sur la terre. Ils ont lavé leurs robes, donc leurs âmes, dans le sang de l'agneau, dans l'amour miséricordieux du Christ. Et c'est être enfant de la résurrection, c'est ça. Pour être enfant de la résurrection, eh bien, il faut participer à ce grand combat spirituel qui a lieu sur la terre. Il faut être fidèle à la vérité, à l'amour. C'est ça notre combat. C'est au ciel, quand on est enfin devenu conscient d'être enfant de la résurrection, quand on est donc ressuscité, eh bien, on adore la miséricorde divine, on adore la souveraineté de l'agneau qui nous a obtenu une telle grâce, une grâce merveilleuse, être au paradis. Et ça, vraiment, c'est notre grande espérance. Alors le jugement, parce que Jésus dit, ceux qui seront trouvés dignes de la résurrection. Ressuscités, dit-il ailleurs, dans l'évangile de Jean, les hommes ressusciteront ou bien pour la vie, ou bien pour le jugement. Pour la vie, c'est ce que Jésus dit ici, être pareil aux anges et goûter comme aliment, eh bien, l'amour divin éternellement. Mais pour le jugement, il ne dit pas la mort, il dit le jugement. C'est la non-vie. Le damné, son existence, c'est être dans une prison, la prison de son ego, éternellement. Et c'est aussi l'expérience des ténèbres. Les ténèbres, c'est communier, eh bien, à, je voudrais pas dire le cœur, parce qu'il n'en a pas, communier au sentiment du dragon, du diable. La révolte, la haine, la colère perpétuelle. Et en même temps, tout son contraire, le découragement, le désespoir, mais qui réalimente une nouvelle colère, une nouvelle révolte, et qui aboutissent à nouveau dans une déchéance, dans un désespoir renouvelé. Voilà ce que le sort des damnés. le sort de ceux qui seront jugés. Les élus ne seront pas jugés. Nous avons fait confiance à l'agneau. Nous avons lavé nos cœurs dans le sang de l'agneau, dans la foi en Jésus-Christ et dans ses commandements. Nous voyons le monde avec ses yeux et nous ne serons pas condamnés. Les élus, eh bien, c'est une connaissance éternelle de Dieu et c'est goûter avec la saveur de l'amour infini de Dieu éternellement. C'est une ivresse sans fin, l'ivresse d'amour, l'ivresse de la vérité. Parce que la vérité est une véritable ivresse pour l'intelligence, une ivresse merveilleuse, toujours renouvelée, toujours plus grande. Et plus on mange et plus on a faim, et plus on a faim et plus les aliments nous sont proposés. Et cela éternellement, dans une croissance sans fin. C'est merveilleux le paradis. Mais il faut écarter toutes les visions puériles qui le caricaturent. Parce que caricaturer le paradis, c'est blasphématoire, c'est faire offense à Dieu.